Là, je reviens d'une semaine, j'étais à Burtigny, à Jeunesse en Mission, enseigner dans leur école les fondements d'éducation. Il y avait représentants du Tchad, il y avait des représentants aussi de Madagascar et de Suisse. Et ça a été vraiment un temps de qualité. Et une des choses que j'apprécie le plus, c'est de faire une chose à la fois. Et qu'une chose, là, pendant une semaine, dans ce beau cadre, avec des jeunes qui boivent, qui reçoivent, qui ont soif de Dieu, qui sont mis à part. C'est vraiment un honneur, un privilège. Et puis j'aime beaucoup aller dans ces organisations de jeunesse en mission. J'y trouve un esprit très ouvert, une vision internationale, une vision des nations, un engagement réel. Donc il y avait pas mal de jeunes couples au niveau de la base qui est en leadership avec des jeunes enfants. Et je dis waouh, c'est quel engagement derrière tout ça. Donc voilà, c'était un plaisir. Donc demain on part sur Toulon, on amène Mitya et je vais voir mon papa, ça fait quand même 2-3 mois que je ne l'ai pas vu et donc ça commence à tirer, je me réjouis beaucoup de prendre ce temps aussi. Mais alors la semaine prochaine, pensez aussi à moi, je pars sur, on va à Toulon, et j'ai pas mal de Zoom et ensuite je vais sur Auch où il y a l'université d'été du réseau Nouvelle Connexion et je vais retrouver d'ailleurs Johan qui est inscrit dans cette université d'été et pour enseigner. Puis je reviendrai le week-end prochain et là à partir de dimanche prochain je pose les valises pendant 2 semaines et on sera de retour fin juillet, le dernier week-end de juillet et on sera là l'été. Donc voilà un peu, que vous sachiez où nous partons et merci aussi de nous accompagner de prière. Donc voilà pour ce matin. Eh bien, j'aimerais revenir sur la parole donnée par Achim au culte dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui a été dit. On va pas faire l'interro, mais c'est drôlement important. Je pense que chaque fois qu'il y a un culte, qu'il y a une prédication, je pense qu'il faut croire qu'il y a une parole de Dieu chaque fois. Et que c'est une parole de Dieu, comme on a eu la présidence, l'Esdras, là. Chapitre 1, verset 1 à 5, il y a une parole de Dieu pour nous. Donc prenons au sérieux ces paroles qui nous sont données. Et donc rappelez-vous, il avait parlé, et on va prendre le texte.
C'est le texte d'Acte 3.
Acte 3, verset 18 à 21. Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc, il avait insisté sur, dans les temps troublés hein, qu'on vit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la question, en fait, dans les actes des apôtres, que devons-nous faire? Et la réponse était celle-là. Repentez-vous, que les temps d'affranchissement viennent jusqu'à ce qu'il y ait le rétablissement de toute chose. Il avait relevé 3 points. Le point de la mission, que devons-nous faire? Ben, on garde ce mandat de mission que Dieu nous a donné. La deuxième chose, c'était la préparation. Et d'ailleurs, ce terme de préparation est revenu plusieurs fois au milieu de nous. Je pense au message de Julie il y a quelques temps aussi, quelques semaines. Et puis, l'étape aussi de Israël, l'horloge, hein, prier pour Israël, et puis aussi être attentif à ce qui se passe. Voilà. Donc moi j'aimerais revenir sur le côté d'acte 3, le côté qui nous parle de repentance, 1, 2, temps de rafraîchissement, 3, rétablissement de toute chose. Ce matin, si vous êtes attentif pendant le temps de Sainte-Cène, etc., il était question de se concentrer sur le Seigneur, de l'écouter et de recevoir sa pensée et de s'aligner avec lui quelque part. Donc la repentance, on sait, hein, nous sommes ici, bon, ce public-là est un public converti, qui s'est repenti, mais il est bien évident que la repentance est aussi un style de vie quelque part et que nous avons besoin de régulièrement faire le point sur notre façon de penser et parfois les pensées tordues qui viennent régulièrement. On n'a pas fini avec ça. Moi, je me rends compte, après des années de conversion, régulièrement, il y a des pensées qu'on discerne qui ne sont pas bonnes et qui tournent comme ça. Et le Seigneur nous demande vraiment de nous repentir. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et dans notre vie chrétienne, en fait, en Israël, c'était tous les ans. Il y a le Yom Kippour tous les ans. Mais je crois que dans l'histoire de la réforme, c'était la capacité de se réformer perpétuellement. Donc la repentance, c'est pas qu'une fois, c'est régulièrement. Et vous savez, il y a eu des émeutes la semaine dernière. Et pendant cette semaine de formation, eh bien, on m'a fait voir un film avec les étudiants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne l'avais jamais vu. Un film qui s'appelle « Écrire pour exister ».« Écrire pour exister ». Voilà. Il s'agit en fait, il y a eu les émeutes, comme en France, à Los Angeles, dans les années 92, avec les policiers en cause qui n'ont pas été condamnés. Et ça a provoqué des émeutes sur le pays, en particulier à Los Angeles. Et on parle d'une soixantaine de personnes tuées. Donc c'était quelque chose de grave.
Et dans ce cadre-là, il y a l'histoire d'une enseignante dans cette banlieue de Los Angeles qui a un professeur de 25 ans et qui s'est trouvé avec une classe difficile parce que c'est des classes d'émeutiers en fait. Des classes faites avec des différentes têtes de gangs et des gangs afro-américains mais aussi hispaniques et asiatiques. Et dans sa classe, il y avait des clans, donc des clans très marqués. Et quand elle est arrivée, elle, la jeune blanche américaine, 25 ans, imaginez-vous, c'était la catastrophe. Ils ne l'écoutaient pas, ils la méprisaient. Ils ont dit, elle va durer quelques jours. Et puis voilà, c'était fait pour eux. Mais elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée et en fait, elle a remarqué que ses élèves avaient été stigmatisés. La direction avait dit, de toute façon, on ne pourra rien faire avec eux. Donc autant on fait durer un peu, on corrige, puis on va les virer, parce qu'il n'y a aucun espoir. Et les émeutes ont montré qu'il n'y avait aucun espoir. Irrécupérable pour la direction. Et donc il y a un élève qui, à un moment, il y a le feu qui est mis au poule dans la classe, il fait un dessin d'une caricature d'un autre élève de cette même classe, et là ça a déclenché vraiment le feu dans cette classe, la zizanie, la guerre. Mais elle a pris ce dessin, et elle a rappelé à la Seconde Guerre mondiale, ça avait aussi commencé par des caricatures. Des caricatures de juifs avec des grands nez, etc. Et elle a montré ces caricatures. Et donc là, du coup, il y avait une écoute et un intérêt est venu pour l'Holocauste, tout ça, ils ne connaissaient pas. Et bref, petit à petit, ils invitent une rescapée de l'Holocauste pour parler de ces stigmatisations qui ont commencer l'Holocauste, en fait, ses premiers dessins, ses caricatures, ses sobriquets. Et donc, elle a commencé à fendre la glace et elle a apporté petit à petit à ses élèves, si vous voulez, son regard de foi, son regard derrière les apparences. Elle a commencé à leur faire confiance et à libérer une nouvelle identité. Et elle a libéré en eux, en fait, une sorte d'amour propre. Et il y a un moment, elle a instauré une journée. La journée du changement, et c'était préparé, mais ce changement, ça voulait dire, j'accepte de renoncer à mes pensées qui me disent que j'y arriverai jamais, que je suis dans un gang, que je lutte pour ma vie, et que ma vie, ça sera toujours comme ça, et que j'ai pas longtemps à vivre. Et tout ce genre de pensées, que je suis irrécupérable, parce que les élèves eux-mêmes étaient rentrés dans ce système-là. Et donc, elle a réussi à faire cette journée du changement, après avoir préparé un peu le terrain comme ça, elle tâtonnait comme ça. Le programme, elle a laissé tomber. Et pendant un moment, elle a tâtonné. Et puis, on voit cette journée du changement, ces jeunes, 14, 15, 16 ans, qui ont commencé à accepter de changer de pensée sur eux-mêmes. Et ça, la glace a été fendue. Les préjugés raciaux ont commencé à tomber. Et là, ça m'a beaucoup touché. Et donc, ce regard de foi, et ce regard qui fait tomber les verrous dans les pensées des élèves, ces verrous, par exemple, rien ne changera, ça va toujours être comme ça. Eh bien, ces retours sur soi, c'était des fruits de ce travail de cette jeune enseignante. Personne n'aurait misé sur elle. Et elle a percé. Et ses élèves ont tous réussi. Et la direction qui était absolument contre ces nouvelles sortes de méthodes là, c'est quoi cette jeune enseignante, ils ont été absolument touchés et repris. Donc, vous voyez, alors par rapport à nos situations actuelles, ça nous dit quoi? Quelles sont les pensées qui peuvent nous enfermer aujourd'hui? Je pense par exemple à notre situation d'église. Notre situation d'église baroudeuse, d'église sous l'étoile, d'église qui depuis 2 ans se bat. Quelles sont les pensées qui sont là? Et je dis, faisons attention aux pensées que nous pouvons avoir. L'ennemi sème des pensées. Toutes les situations qui stagnent. Par exemple, on prie pour des situations, ça ne bouge pas. Je pense, en apparence, je pense aux situations de maladie. Alain, sa vue, Huguette, sa santé, d'autres au milieu de nous. Et parfois, on a l'impression de se dire, mais voilà. Et petit à petit, on peut arriver à des forteresses de pensées, vous voyez, qui s'installent en nous et qui ensuite commencent à réduire notre horizon, à réduire notre foi. Merci.
Donc, vous voyez, on a besoin de faire attention
aux les situations familiales avec nos enfants, les situations financières. Vous voyez, comme si on abdique. Et il y a des moments, tout d'un coup, on ne se sent pas très bien. Et là, c'est là qu'il faut venir vers Dieu. C'est-à-dire, quelle est la pensée? Quelles sont les pensées qui font que je suis comme ça? Que je suis comme résigné, etc. Donc, ça, c'est la repentance. Voyez, on se met devant Dieu, comme il a été dit, on s'expose à lui. C'est pas nous qui pouvons faire, mais c'est lui. Seigneur, montre-moi. Et quand il nous montre quelque chose, eh bien, on le met à ses pieds et on accepte de changer. C'est comme la vision que nous avons de nous-mêmes, rappelez-vous, avant la conquête de Canaan, la plupart des Hébreux, hein, les espions en particulier, qui ont dit, mais nous, on est comme des sauterelles. Face à ce pays de France, avec des émeutes, face à l'Europe, avec la guerre, on est comme des sauterelles, voyez. Et ce genre de pensée-là empêche l'action de Dieu. Et donc Caleb, Josué, ils ont cru qu'ils n'étaient pas des sauterelles. Et Josué, dans le chapitre 3 du livre des Nombres, lorsqu'il est dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui avons vu des hommes d'une haute taille, et nous avons vu des géants, etc. Donc, toutes ces pensées qui ont été, par les circonstances, parce que ce qu'ils voyaient, c'était vrai. C'était vrai qu'il y avait des géants. C'était vrai qu'il y avait des ennemis bien plus forts. C'était vrai. Donc, la vérité, encore une fois, souvent on dit, mais moi je pense, soyons réalistes, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que nous voyons, c'est pas nos circonstances, qu'elles durent ou pas. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et donc, vous connaissez cet adage qu'on voit dans des posters, souvent dans les bases de Jeunesse en Mission d'ailleurs, entre autres, c'est la première fois que j'ai vu ça, il y a des années. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Et tout commence par une pensée. Donc l'ennemi fait pareil. Il sème des pensées. Et le problème, c'est qu'on pense que c'est les nôtres. C'est ça. Alors, on pense que c'est nous qui pensons. Et alors, ça, on pense avec je, tu vois, je. Mais attention, il y a des tas de choses qu'on pense, c'est pas nous qui pensons. Il y a une semence qui a été transmise, qui a été mise. Et parfois, pour que ça devienne. Alors, les pensées peuvent être volatiles, hein. On les refuse, ça va. Elles n'ont même pas le temps de s'enraciner. Mais quand on commence à. On revient dessus. Les circonstances font que ça ne bouge pas. La pensée s'enracine. Elle prend racine. Et après, ça devient des blocs de briques. Et qui, elles-mêmes, ces blocs s'accumulent. Et ça devient des forteresses de pensée. Et donc, bien sûr,
ça va conduire à nos actions. Alors,
dans cette semaine, j'ai eu l'immense privilège de prier pour ces étudiants, et puis que ces étudiants prient pour moi. Et il y a une étudiante, elle s'appelle Sophie, elle enseigne à la Bergerie, en école chrétienne en Suisse, et elle dit, voilà, moi j'ai reçu quelque chose pour vous. Et donc j'écoute, et je m'étais simplement présenté au niveau responsable du réseau des écoles chrétiennes en France, etc. Elle m'a dit, je vois Josué. Déjà, tu vois, ça vous commence bien. Je vois Josué. Et elle dit, je vois que tu es dans une phase où il y a un Jourdain qu'il faut franchir. Et le Seigneur te dit, mes sacrificateurs qui portent l'arche doivent passer, mettre le pied dans l'eau. Et quand vous mettrez le pied dans l'eau et que vous resterez là, les eaux sur la gauche, sur la droite s'arrêteront. C'est le passage de Josué, chapitre 3, versets 15 à 17. Et moi, au début, je cherchais pour moi. Vous voyez, ça veut dire quoi pour moi? Et tout immédiatement, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait vraiment une parole aussi pour l'Église. C'est d'ailleurs pas la première fois que ça a été donné. Alors nous, quand on reçoit une parole, on aimerait que ça s'accomplisse tout de suite. Mais le processus est plus long. Et voilà. Et par rapport à la repentance, alors un peu plus large, j'ai eu l'occasion de parler et d'échanger avec Tom Bloomer, l'ancien recteur de l'Université des Nations. Il a un ministère prophétique quelque part. Et ça fait 2-3 ans, dans les rassemblements en Suisse, qui s'appellent Discerner les temps, eh bien, il a appelé l'Église à la repentance. Et dernièrement, il y a un article qui est sorti, que j'ai envoyé au conseil, je pourrais le envoyer à l'Église, dans le Christianisme aujourd'hui, qui dit, eh bien, 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est de cette parole? Grosso modo, elle n'a pas tellement été reçue, mais elle reste vivante. Donc c'est toujours comme une parole de Dieu, c'est-à-dire, elle nous avertit de crise, il parle de crise économique, il parle de tout ça, mais il dit, voilà, l'Église doit se tenir à la brèche. Et faire en sorte et prier pour que tous ces choses n'arrivent pas. Mais cette idée, c'est quand même se repentir, c'est-à-dire changer peut-être de focus, de priorité, etc. Voilà. Alors, là aussi, la repentance, c'est, si vous voulez, c'est quand tout semble contre, par les pensées qu'on a, mais tout d'un coup, on se lève, comme il a été dit là, l'Esprit de Dieu a réveillé Cyrus. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu nous réveille, qu'est-ce qui se passe? On pose un « mais ». J'avais déjà enseigné il y a quelques années là-dessus, les grands « mais » dans la Bible qui changent tout. Et regardez dans Exode, un plan de destruction de tout le peuple d'Israël. Pharaon qui dit « Vous accoucherez les femmes des Hébreux, quand vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais, écoutez ça, « mais les sages-femmes craignirent Dieu. » Et ne firent pas ce qui leur avait été dit par le roi d'Égypte. Résistance, insoumission, parce que la valeur de la vie était plus grande que toutes les lois. Mais les sages-femmes. Et je pense que là, il y a quelque chose de fort aussi. Rappelez-vous le discours de Caleb, quand il parle à Josué, il dit « Voilà ce que j'ai fait, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. » Et il continue, et c'est pour ça qu'il a reçu l'héritage. Et cette histoire de ces pérégrinations de ce peuple, ça a quand même duré 40 ans. C'est long, 40 ans. Il va me dire, Luc, tu penses que c'est 40 ans pour nous, toi? Il y a des choses dans nos vies, probablement ça prendra plus que 40 ans, j'aimerais tout de suite te dire. En tant qu'Église, on ne sait pas. Mais Dieu est bon, mais voilà, il y a du temps pour tout, mais il faut qu'il y ait le « mais » dans nos vies. Et à un moment, il y a le « mais ». C'est-à-dire, c'est le « mais » qui est à contre-courant. C'est comme Samuel un jour. Imaginez, le roi David, il va combattre, donc c'est un homme de guerre, il combat avec ses guerriers, donc il se donne à ça. Et puis, pendant qu'il se bat, qu'est-ce qui se passe? La ville de Tsilag, avec les femmes, les enfants, elle est pillée, ravagée. Vous rendez compte? Tu te donnes pour Dieu. Tu fais le travail que Dieu te demande, et tu te fais piller dans ta famille, tu perds tes enfants, tu perds ton épouse. Mais c'est quoi ça? Tous prisonniers, la ville ravagée. Il y aurait de quoi arrêter. Il y aurait de quoi de se dire, à quoi bon combattre? À quoi bon marcher? À quoi bon se battre pour le Seigneur si c'est pour arriver à cette destruction, à cette captivité des êtres les plus chers? Et là, vous avez... David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Pas sur les circonstances, sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Aminek, apporte-moi les fautes, etc. Et là vous avez le début, on se lève, l'esprit est réveillé, et ils vont aller prendre, ramener tout ce qui a été volé. Et ils vont faire la razzia de ceux qui ont fait la razzia. Et il n'y a pas eu un seul mort. Tout le monde, toutes les femmes, tous les enfants ont été ramenés sains et saufs.
Donc ça, c'est un mais. Il a fallu un mais.
Et pareil pour David, à un moment, il est devant Jérusalem. Au début, Jérusalem, c'était un bastion de l'ennemi. Hein. C'était vraiment un bastion de l'ennemi. Et puis voilà, le roi marcha avec les gens de Jérusalem, les Jébusiens, habitants du pays, dira à David, tu n'entreras pas ici. Hein? Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Voilà. Car ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Vous voyez, ça c'est le cœur de Dieu. Les pensées de l'ennemi, tu n'y arriveras jamais. Regarde votre église là, sous des bâches. Mais c'est quoi ce truc? Enfin, le problème c'est que Dieu a dit, je confondrai la sagesse des sages avec la folie de la foi. Et dans cette... nous devons être certains de... Si nous sommes fous, merci Seigneur. Si c'est dans la foi, vous voyez, pas n'importe quelle folie. Voilà, on reste dans la foi. C'est comme les apôtres qui n'avaient rien dans les poches, le mendiant à la porte qui demande du fric. Et moi qui dis, j'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mes amis, on a tout, en fait. Ça a été rappelé, on a tout. Dans cette sainte-Anne, on était invités à puiser, parce que tout ce que Dieu a, c'est à nous. Alors, la deuxième parole qui nous dit « repentez-vous », donc vous voyez quelques aspects de la repentance, mais « afin que des temps de rafraîchissement viennent ». Et voilà, Dieu est un Dieu qui veut nous rafraîchir. Moi, j'ai beaucoup aimé ces petits vents, j'ai un peu peur. Quand je voyais le vent, la bâche se soulever, là, Alain qui tient le drapeau de l'Italie fermement pour que la bâche ne reste bien sur nous, là. Enfin, voilà, on est dans une drôle d'époque, quand même. Mais voyez, le but, c'est les temps de rafraîchissement. Et dans Deutéronome, dans beaucoup de passages bibliques, il est dit, si vous obéissez à Dieu, à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, si vous le servez de tout votre cœur, voyez, obéir à ses commandements, l'aimer, le servir de toute votre âme, et bien je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première, de l'arrière saison. Tu recueilleras le blé, ton moût et ton huile. Aimer l'Éternel, servir l'Éternel, et Dieu donne le rafraîchissement. Et puis vous avez aussi le Proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça veut dire sur tes pensées. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement. Rafraîchissement. Le rafraîchissement vient de se confier en Dieu. C'est là, et c'est le rafraîchissement pour les os, au niveau physique aussi. Ce n'est pas seulement l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Heureux ceux qui placent en toi, psaume 84, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Donc nous sommes, si vous voulez, non seulement Dieu est un Dieu qui rafraîchit, mais Dieu est un Dieu qui veut faire de nous des hommes et des femmes qui transformons les vallées, parce que les vallées, il y en a, parce que les vallées, on y passe, les amis, et on y passera encore, mais il y a cette capacité de les transformer en vallées pleines de sources et la pluie qui couvre de bénédictions. Et un autre texte que j'ai pour ce matin, c'est Isaïe 55, lorsqu'il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Donc la question, c'est de la soif. Ça, c'est la vraie question. Gardons la soif de Dieu. Gardons la soif de Dieu. À ceux qui ont soif, venez boire, sans argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Ça commence par l'écoute. Hein. Écoutez-moi donc. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. Donc, vous remarquez l'insistance sur écouter. Écoutez, votre âme vivra. Et ensuite, il est plus loin, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et là, regardez, car, c'est intéressant ce car ici, parce que là, il est question de quoi? De chercher l'Éternel, d'abandonner sa voie, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, retourner à l'Éternel, c'est retrouver sa pensée. Chercher sa pensée. invoquez-le pour avoir sa pensée. Et ensuite, il continue. Alors vous allez dire, oui, mais comment avoir sa pensée, Seigneur? Est-ce que c'est l'écoute, mais ça veut dire quoi? En pratique, quoi, en pratique, mince, alors comment je peux avoir ta pensée, Seigneur? Ça continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Et c'est là tout le secret. C'est se frotter à cette parole. C'est la méditer, c'est la prendre au sérieux. C'est la prendre pour nous, c'est la prier cette parole, c'est la chérir. Et cet été, moi je nous invite à avoir bien sûr des temps de repos, mais vous savez, le vrai repos, c'est ce que la Bible appelle le repos de la foi. Il n'y a pas de repos véritable, même pour nos corps, en dehors d'un repos dans la confiance. Donc si nos corps veulent se reposer, et ils ont besoin, c'est dans la confiance. Et la confiance, ça vient quand on médite qui est Dieu, ses Écritures et sa parole. Donc voilà, celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je donnerai, Jean 4, hein, deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Nous sommes appelés à rafraîchir notre monde. Nous sommes appelés... Vous voyez, ici nous sommes à l'ombre des bâches, et Dieu dit qu'il forme ses prophètes à l'ombre de sa main. Et Dieu, en tant qu'Église, nous forme à l'ombre de sa main. Je ne sais pas, je crois qu'il y a des grands projets, il y a des grandes choses dans tous les domaines. Mais Dieu prépare en même temps son Église à l'ombre de sa main. Et il prépare ses flèches, comme Ésaïe 49, versets 1 à 5. Et le but, c'est qu'il est parlé du rétablissement de toutes choses. Alors j'aimerais quelques mots dessus, et c'est le dernier point. C'est un peu comme Jésus disait, mais à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer et tout ça? Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit revenir premièrement? Et il leur répondit, Élie reviendra premièrement et il rétablira toute chose. Donc Jésus parle aussi du rétablissement. Dans Éphésiens chapitre 1, il est question du rétablissement de toute chose. Il est dit que le mystère de sa volonté, c'est quoi? Il nous le fait connaître. Eh bien, c'est quoi ce mystère? Eh bien, c'est de réunir toutes choses en Jésus. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Eh bien, ce rétablissement, cette promesse du rétablissement, c'est la base de notre espérance chrétienne, biblique. Rappelez-vous, il y a déjà plus d'un an, j'avais vraiment apporté cette importance de l'espérance et cette distinction entre l'espoir et l'espérance. Mes amis, je reviens dessus quelques mots. L'espoir, c'est quoi? On part du présent et on commence à rêver et à envisager l'avenir. Donc l'espoir, ça part du présent. Et donc voilà, l'espoir, lui, si vous voulez, il projette les désirs. L'espérance chrétienne, c'est absolument l'inverse. L'espérance chrétienne, elle part de l'avenir. C'est-à-dire, elle parle des promesses de Dieu, du rétablissement de toutes choses, et ça c'est l'encre, dit la Bible, c'est l'encre. L'espérance, c'est une encre. Donc l'espérance, c'est sur les promesses de Dieu, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton pays, pour ton église, c'est ça l'espérance, c'est pas l'espoir. L'espoir qui part du présent sera toujours déçu. L'espérance qui s'ancre dans l'avenir et dans les promesses de Dieu ne sera jamais déçu. Et donc, l'espoir, il projette, voyez, creuse le lit de nos désespoirs à venir. L'espoir.
Et l'espérance, c'est une autre histoire. Alors, juste quelques mots encore sur
l'espérance qui est une encre. Et dans ce temps de un peu de dépouillement, d'incertitude au niveau même international, le Seigneur nous appelle à espérer contre toute espérance, un peu comme Abraham. Et j'aimerais vous dire, non seulement nous devons être un peuple de foi, et je pense franchement qu'on n'en manque pas, vous qui êtes ici, on n'en manque pas, il me semble. Alors bien sûr, on peut toujours avancer plus dans la foi, mais j'aimerais mettre ça avec l'espérance. La foi sans l'espérance, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal. Et regardez l'exemple d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Ça, c'est Abraham, Romains 4. Dieu lui dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai, offre ton fils en sacrifice. Donc ça, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à la foi. Va-t'en, c'est-à-dire, il se lève et il marche. Ça, c'est la foi. Sacrifie ton fils, il prend son fils, il porte le bois sur le mont Morija. Donc ça, c'est la foi. C'est-à-dire, il fait ce que Dieu demande. Ça, c'est la foi. Mais l'espérance, elle se base sur quoi? Dieu lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ça, c'est l'espérance. Donc, l'espérance, c'est les promesses de Dieu, les grandes promesses, les grands desseins de Dieu. Et la foi, elle agit à partir de cette grande vision des promesses de Dieu. Et par exemple, je viens d'entendre, c'est Anne qui m'a parlé au Collège Daniel, vous avez une semaine avec les enseignants, et il y a eu un temps de prière vendredi matin, et elle me dit, il y a une vision de plein d'étoiles. Voilà, Chloé, hein? Est-ce que vous savez ça, c'est la vision fondatrice pour toutes les écoles depuis 1986. Nous étions à Strasbourg avec Manuela, et nous prions pour les écoles, et Dieu nous a donné de voir des étoiles. En fait, la vision, on l'a écrite, hein? Des milliers d'étoiles qui allait recouvrir la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord, des milliers d'étoiles. Et Dieu qui dit, ça sera mes écoles. Et bon, au bout d'un moment, quand vous bossez pendant des années, que vous en avez 10, 20, et puis il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, c'est tout petit, et ça manque de mourir chaque fois, tu te dis vraiment, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? 20 ans plus tard, au Mexique, je prêche sur cette vision, un ancien vient me voir à la fin, Manuela me traduit, et il me dit, pendant que vous parliez, j'ai une vision, j'ai vu la France avec des milliers d'étoiles. Ça déborde sur l'Espagne et l'Afrique du Nord. Et Dieu vous dit, j'ai pas oublié la vision. Et là, vous recevez ça? Mais mes amis, Dieu, ça, ce genre de promesse-là, qui confirme la parole biblique, qui parle de restauration de toutes choses, c'est ça qui donne la foi et qui nourrit la foi et l'action. Donc voyez, soyons pas seulement des gens de foi, mais des gens d'espérance. Des gens d'espérance. Et Abraham quitta tout parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements dont l'architecte, dont Dieu l'architecte. Ça, c'est l'espérance. Voyez? Comprenez bien la différence entre foi et espérance. C'est très important, ça. Si l'espérance manque, la foi, elle peut flancher. La foi peut flancher. Donc, entretenons l'espérance. Et l'espérance, c'est voilà, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne, c'est les promesses de Dieu, les promesses dans la parole, mais les promesses aussi qu'il a pu nous faire, en tant que corps, en tant qu'église. On retrouve ce même principe entre l'espérance et la foi lorsqu'il y a le dialogue entre Jésus et Marthe devant le tombeau de Lazare. Ton frère ressuscitera, dit Jésus. Et Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est l'espérance ou la foi? Il ressuscitera au dernier jour. Seigneur. C'est lointain. C'est l'espérance. Tout le monde ressuscitera au dernier jour. Et donc, c'est l'espérance. Voilà. Et ensuite, il est dit, je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela? Maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est la foi. Vous voyez? Donc, alors c'est très proche, on est bien d'accord. C'est très proche. Mais voyez, retenez que Abraham, il a eu une espérance fondée sur les promesses de Dieu qu'il n'a jamais vues certaines s'accomplir. Et dans l'Épître aux Hébreux, les héros de la foi, certains n'ont jamais vu s'accomplir les paroles. Et pourtant, ils sont les héros de la foi parce que ils avaient vu au-delà, c'est-à-dire ils étaient motivés par une vision des promesses eschatologiques de la fin des temps, qu'un Dieu restaurerait toutes choses, réconcilierait tout. Donc nous sommes sauvés, en espérance nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Et ça me parle beaucoup. Alors, un point, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix et méprisé la honte. En vue de la joie qui lui était, ça c'est l'espérance. De Jésus lui-même. Il est passé par la croix. Cette joie de Jésus lui est venue de l'espérance, voyez. Et l'espérance a fortifié sa foi, et sa foi a permis l'obéissance. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Parce qu'il a vu au-delà, et ça c'est l'espérance. Donc la foi qui est l'obéissance à son Père, pour passer par la croix, était nourrie par l'espérance qui est plus, encore plus large. Vous voyez, donc pour aller au bout de nos missions individuelles, collectives, on a besoin de la foi et on a besoin de l'espérance. On a besoin de Dieu, des deux. Vous voyez donc, dans le contexte aujourd'hui d'une vie, d'une culture, si vous voulez, du court terme, d'une culture où les horizons se rétrécissent, d'une culture de désespoir, parce qu'au niveau de la génération qui est là, de ses émeutiers, etc., il est bien évident qu'il y a du désespoir, une carence d'espérance. Mais même dans le peuple de Dieu, il peut y avoir, à cause de pensées tordues, un désespoir qui n'est pas dit, qui n'est pas avoué. Vous voyez, on ne l'avoue pas parce qu'on sait que ce n'est pas biblique. C'est, alors, on est évangélique quand même, tu vois. Mais dans notre cœur, on n'a plus d'espérance. Attention. Donc Dieu nous dit, je veux te redonner de l'espérance. Repends-toi.
Repends-toi. Repentons-nous. Et voyez,
soyons pas dualistes et croyons que l'espérance, j'ai noté ceci, c'est quand la pierre qui bouche ma vision de l'avenir est roulée. Quelles sont les pierres qui bouchent la vision de l'avenir? Il y en a beaucoup. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Mais Jésus est ressuscité. Il a roulé la pierre. Et cette pierre qui bouche ton avenir, qui peut boucher notre avenir, elle est roulée. Et cette espérance, la résurrection, vous savez, donc ça ne veut pas dire s'échapper au monde, mais cette résurrection de Jésus, eh bien ça fortifie notre mission, justement, en tant qu'Église, en tant qu'individu, ça fortifie notre vision. Donc l'étape intermédiaire entre la résurrection de Jésus, qu'on célèbre, qu'on a célébré par la Sainte Cène, et puis le renouvellement du monde entier qui est à venir, quelle est l'étape intermédiaire entre les deux? Entre la résurrection, donc le royaume de Dieu qui est venu là au travers de Jésus, par la résurrection, la première fois qu'un homme ressuscité, qui est une nouvelle chair, un nouvel état d'esprit, un nouvel homme, quoi, est né sur cette terre. C'est Jésus lui-même. Et il est le prémisse d'une nouvelle création tout entière. Donc c'est quoi l'intermédiaire?
Eh bien l'intermédiaire, je vais vous dire,
c'est vous. Et c'est nous. Nous sommes le maillon manquant entre la résurrection du Christ qui a inauguré un nouveau règne et puis la fin de toute chose, de restauration de toute chose. Nous sommes le maillon qui permet de faire avancer ce royaume de Dieu. L'avancée du royaume de Dieu, ce n'est pas des critères des hommes. Moi, quand vous lisez parfois certaines biographies, vous avez des gens, apparemment, il n'y avait pas de fruits. Apparemment, il ne s'est rien passé. Et j'en ai plusieurs à vous raconter. Hein. Et pourtant, c'est de Dieu qui les avait placés. Je pense par exemple aux premiers missionnaires de Chine. Je pense à l'Afrique. Les premiers missionnaires, au niveau par exemple de Jeunesse en Mission ou autre. Mais c'était catastrophique. À yeux humains. Tom Blomer me rappelait, les premières bases implantées systématiquement sont mortes. Il n'y a plus rien eu pour des pays d'Afrique. Et il a fallu continuer. Et enfin, il y a quelque chose qui a pris. Mais les premiers qui ont commencé, eux, ils ont vécu l'échec. Mais ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Et ils sont tout autant à honorer que ceux qui ont réussi, selon les critères humains. Donc voyez, nous sommes l'étape
intermédiaire. Et
le royaume de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à le manifester, c'est ça. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a l'amour, ces choses qui demeurent. Eh bien, qu'on puisse être saturé de ces
dimensions-là. Oui. Donc voilà, ce que tu fais aujourd'hui, lorsqu'il est dit, et je termine.
Mes frères bien-aimés, l'apôtre Paul dit, hein, chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Corinthiens, il parle de la résurrection. Il décrit la résurrection des corps. Tu es là, tu dis, waouh, ce truc. Tu te dis, waouh, j'ai envie de mourir, quoi, bientôt arriver. Et puis ensuite, vous savez comment il termine? Puisque vous avez une si grande espérance, alors il aurait pu dire, détendez-vous, ça c'est ce qui vous attend, la résurrection des corps, détendez-vous, cool. Non, il dit ainsi, écoutez ça, puisqu'il y a une résurrection qui nous attend, et une résurrection de toute chose, regardez, mes frères bien-aimés, soyez fermes. 2. Inébranlable. 3. travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc c'est cette vision de la résurrection, de l'éternité, de la restauration de toutes choses qui nous pousse aujourd'hui à aimer, à pardonner, à bâtir là où Dieu nous appelle. Et ça, mes amis, c'est la force du chrétien. C'est la force du chrétien. Et parfois, Dieu permet, il ôte tous les sujets d'espoir, toutes les circonstances qui pourraient, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour légitimer une espérance, ou je ne sais pas, de la foi, ou un engagement. Parce qu'il veut que nous soyons un peuple qui espère contre toutes espérances. Et ça, mes amis, cette racine-là, cette dynamique-là, c'est indestructible par rapport à la foi et à l'amour aussi. Donc voyez, je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts, on s'aime les uns les autres. Vraiment, il y a une affection sincère entre nous. On manifeste de la foi, vraiment, je pense aussi, et on l'a fait dans cette histoire de Josué depuis longtemps. Mais maintenant, Dieu veut creuser l'espérance encore plus, parce que les trois demeurent à toujours. Seigneur, merci pour les temps de rafraîchissement qui suivent les temps de repentance, Seigneur. On veut t'apporter maintenant toute pensée petite, toute pensée qui peut nous bloquer, toutes ces pierres qui nous empêchent de voir l'horizon. Seigneur, pardon pour les pensées qui ne sont pas les tiennes et qu'on entretient, qu'on a entretenu. Les circonstances nous ont entraînés à penser comme ça. On s'est laissé parfois ensemencer. Par exemple, pour notre pays, avec toutes ces émeutes, avec les maladies qui restent, qui durent. Seigneur, pardon pour toutes les pensées qu'on a pu accepter, qui ont donné un retrait, qui ont donné des désillusions, qui ont donné un arrêt de la marche. Mais Seigneur, voilà, aujourd'hui, nous croyons que si nous détournons de nos voies, de nos mauvaises voies, et que nous persévérons dans les bonnes, que nous prenons les bonnes, que nous attachons à ta pensée à toi, dite dans ta parole, ce que tu dis de nous, ce que tu dis de mon frère et de ma sœur, ce que tu dis de notre Église et de notre pays, eh bien Seigneur, nous croyons que des temps de rafraîchissement sont là et sont possibles. Et merci Seigneur pour l'espérance que tu as donnée à Abraham, le père de la foi, comme par hasard, il avait une si large vision. Merci pour l'espérance qui nourrit la foi. Merci pour la foi dans notre marche que tu renouvelles encore aujourd'hui. Merci pour l'amour que tu renouvelles, Seigneur. Et Seigneur, en tant qu'Église, c'est vrai que parfois on a été un peu frustrés de voir tant de jeunes partir, Strasbourg, Hoche, Sud-Ouest, Canada, etc. Mais Seigneur, nous savons que nous avons le privilège d'avoir ensemencé et nous continuerons d'ensemencer, Seigneur, et de faire ce que tu nous dis, simplement. Dans la foi. Alors merci pour les temps de prospérité, merci pour les temps plus délicats, mais l'espérance demeure, Seigneur, parce que tu as promis la restauration, la réconciliation, la bénédiction. Merci, Seigneur. J'appelle ta grâce sur chacun d'entre nous et que cet été, nous puissions renouveler dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.